Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maryse Damecourt et bienvenue au troisième épisode de l'émission Balado « Comprendre l'humain avec ou sans un doc en psycho ». Donc cette émission-là part vraiment d'un élan de partager au plus grand monde, de faire profiter toutes ces heures que j'investis à lire et à comprendre sur le fonctionnement de l'humain. Aujourd'hui, on va parler des émotions. J'ai commencé depuis quelques semaines à lire là-dessus et c'est un domaine de recherche fascinant. J'ai tant de choses à vous partager, donc probablement que ce ne sera pas le seul épisode sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une émotion. On va voir que c'est plus complexe que ce qu'on croit et aussi à quoi elles servent. Les émotions nous meuvent, nous informent, nous aident à choisir et même à apprendre. Mais cependant, les émotions peuvent aussi nous nuire si elles proviennent de blessures du passé qui n'ont pas été résolues. Et on va terminer par voir comment est-ce qu'on peut tranquillement, doucement et en toute sécurité, transformer ces émotions non résolues. Dans cet épisode, je me base surtout sur les travaux de Les Greenberg, qui est un psychologue et chercheur canadien originaire d'Afrique du Sud, qui a fait toute sa carrière à l'Université de York à Toronto. Donc, Greenberg a fondé la thérapie centrée sur les émotions et je me base sur son livre « Emotion-Focused Therapy, Coaching Clients to Work Through Their Feelings », publié en 2015, et aussi sur le livre de Kramer et Rogama, « La psychothérapie centrée sur les émotions », publié aussi en 2015. Est-ce qu'on réfère lorsqu'on parle d'émotions? Mais dans le domaine de la science, il n'y a pas encore de consensus à ce sujet-là. Mais cependant, plusieurs experts s'entendent pour dire que les émotions témoignent de notre état corporel et aussi nous influencent dans notre manière d'agir et de percevoir la situation. Normalement, une émotion, c'est assez court, à peu près 60 à 90 secondes, si on ne la bloque pas et si on ne l'alimente pas, entre autres avec des pensées. Donc, vous avez sûrement déjà fait ça, vous sentez une peur, mais finalement, vous nourrissez cette peur-là avec des scénarios tous plus catastrophiques les uns que les autres. Donc, à ce moment-là, l'émotion se renouvelle. Cependant, si on la laisse suivre son cours naturel, c'est pas plus long que 60 à 90 secondes, mais ce 60-90 secondes-là est très intense. Le cœur peut battre très vite, on peut avoir chaud, on peut même être étourdi. Ce sont toutes des composantes normales, physiologiques de l'émotion. L'émotion, c'est comme une vague qui nous envahit et qui redescend. Les émotions viennent et repartent naturellement. Les émotions sont vraiment ancrées dans le corps. On peut dire qu'elles sont des messagères du corps. Donc, on va parler ici un peu de neurosciences. Donc, on peut voir dans le cerveau les émotions. Elles vont emprunter des circuits neuronaux qui représentent notre état physique. En d'autres termes, pour le dire plus simplement, les émotions sont le moyen mental qu'on a de savoir ce que notre corps a à nous dire. On peut prendre un exemple pour illustrer ça. Imaginez une personne qui perçoit un ours. Immédiatement, son cœur va accélérer, son énergie va être dirigée vers ses jambes afin de s'enfuir. Et c'est à partir de ces sensations physiques-là que le cerveau va comprendre qu'il y a un danger et c'est ensuite que la personne va ressentir de la peur. Si le corps ne réagit pas, il n'y a pas d'émotion. Les émotions sont aussi des tendances à l'action. Donc, les émotions, comme on vient de le voir, affectent plusieurs dimensions. Notre état physique, le rythme cardiaque, la sudation, notre rythme de respiration, même les hormones qu'on a dans notre corps. Elles influencent aussi nos pensées et nos interprétations qu'on se fait par rapport à la situation. Est-ce qu'on trouve ça grave? Est-ce que c'est bénin? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre interprétation? Et aussi nos comportements. Par exemple, la peur entraîne souvent une accélération du rythme cardiaque et aussi une vision de l'environnement en tunnel qui est focalisée sur le danger. Donc, quand on a peur, c'est pas le temps d'entendre le chant des oiseaux et de voir la beauté du paysage. Toute notre attention est concentrée sur la menace, un ours, un reproche qui vient d'une personne qui nous est chère. La personne va aussi avoir tendance soit à fuir ou à figer. Donc, chaque émotion prépare la personne à agir d'une manière différente. La colère nous amène dans une tendance à la confrontation. La tristesse nous amène notre attention vers l'intérieur, un mouvement d'introspection, et la curiosité amène vers une ouverture sur le monde. Les émotions proviendraient aussi d'une évaluation plus ou moins consciente et quand même assez rapide de ce que Lazarus appelle la relation individu-environnement. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que la situation est favorable à mes objectifs, à mes désirs, à mes besoins et à mes valeurs? Prenons l'exemple d'une personne qui est perdue en forêt et qui a faim. Elle constate qu'elle n'a pas accès à de la nourriture, mais à ce moment-là, elle pourrait sentir de la peur. Cependant, elle voit les secours arriver et sa peur disparaît. Pourtant, sa faim est toujours présente, mais son rapport à l'environnement a changé. Et cette évaluation-là est aussi teintée des capacités, des expériences et des croyances portées par la personne. Si cette même personne connaît les principes de la survie en forêt, bien, il est possible que la sensation de faim ne déclenche pas de la peur chez elle, mais plutôt une décharge d'énergie pour se mettre en action et trouver un refuge de la nourriture. En somme, les émotions sont des tendances à l'action qui sont basées sur une évaluation du rapport individu-environnement et qui sont ancrées dans le corps. Les émotions sont nécessaires pour qu'on soit capable de s'adapter aux circonstances de la vie. Sans émotions, on serait carrément léthargique. Certaines personnes pourraient penser que les émotions peuvent être nuisibles, qu'il est préférable de garder la tête froide pour agir, mais en fait, selon Les Greenberg, les émotions sont des signaux précieux et il faut les écouter. Selon Les Greenberg, les émotions auraient 6 fonctions. Tout d'abord, nous informer sur notre relation avec notre environnement, sur notre relation avec l'autre. Elles aident à signaler notre état interne aux autres, nous préparent à l'action, nous aident aussi à évaluer est-ce que les choses vont dans une direction qui est en ma faveur, et aussi elles jouent un rôle dans l'apprentissage. Donc tout d'abord, les émotions aident à comprendre l'état de notre relation avec l'environnement. Donc, les émotions ressenties risquent d'être pas mal différentes si une personne se trouve devant un feu de foyer ou sur le bord d'une falaise abrupte. Deb Dana, qui est spécialisée dans la théorie polyvagale dont on a parlé au précédent épisode et qui se spécialise aussi dans le traitement des traumas, souligne l'importance de prendre soin de son environnement physique. Donc, pour les personnes là, qui aiment la décoration intérieure, la science est derrière vous. Les plantes, la lumière douce, les sons agréables et prévisibles sont autant de signaux apaisants qui contribuent à créer un état favorable aux émotions positives. Ensuite, les émotions nous fournissent de l'information sur l'état de notre relation avec les autres. Donc, si par exemple vous ressentez de la tristesse, bien, c'est possible que vous soyez en train d'avoir peur ou que vous ayez la perception que vous avez perdu l'être aimé. La colère peut signaler que vous percevez une inégalité ou encore la frustration de certains besoins au sein de la relation. La détente, la joie, le plaisir bien, suggèrent au contraire que plusieurs besoins sont nourris à travers ce lien-là. Donc, s'il est important de rappeler que les émotions sont basées sur des perceptions subjectives et donc elles sont sujettes à l'erreur. Si une personne ressent de la jalousie, ça ne signifie pas que son ou sa conjointe l'ait trompée. Cependant, ça indique certainement qu'il y a un inconfort et que ça mérite qu'on s'y attarde. Troisièmement, les émotions contribuent à communiquer notre état aux autres. Contrairement aux pensées qui sont vraiment imperceptibles pour les autres, à moins qu'on soit médium ou des choses comme ça, ben, les émotions transparaissent. Les larmes qui montent aux yeux, le visage qui se contracte, qui s'ouvre, les sourires, les inclinaisons de tête, tout ça, c'est autant de signaux qui aident les autres à nous lire et donc à mieux interagir avec nous. Les émotions créent aussi un état interne qui est propice à certains types d'actions. Les émotions négatives ont plus tendance à réduire l'éventail des comportements possibles. Comme expliqué le plus haut, la peur et la colère entraînent souvent une vision en tunnel qui est focalisée sur la menace. Les comportements qui en découlent sont la fuite, l'attaque ou l'immobilisation. Quand on a peur ou qu'on est en colère, on ne va pas chanter, danser ou offrir de l'empathie à l'autre. Au contraire, les émotions positives élargissent les comportements possibles. Et là, ici, c'est selon la théorie « élargir et construire » de Barbara Fredrickson, une autre auteure vraiment intéressante, les émotions positives permettraient d'accéder à la créativité, de repousser nos limites, de jouer, d'explorer, d'acquérir de nouvelles informations, de revisiter notre vision de soi, des autres et de notre avenir. En somme, les émotions positives et négatives contribuent à préparer une personne au type d'action approprié selon la situation. Les émotions sont aussi des indicateurs de l'écart entre nos objectifs, nos valeurs versus la situation actuelle. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un souhaite se rapprocher intimement d'une personne et cette personne-là ne retourne pas les messages textes. Donc, la personne va peut-être se sentir déçue, irritée parce que les choses ne vont pas dans la direction de son objectif qui est de se rapprocher de cette personne-là. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'on s'éloigne d'une certaine valeur, donc quelque chose de peut-être un peu plus subtil. Prenons l'exemple d'une chicane de couple. Disons que l'homme dit « j'en fais plus que toi, c'est injuste ». Eh bien, il va ressentir de la colère, il y a un besoin d'équité, mais le ton monte avec son ou sa partenaire et il y a un échange de phrases plutôt blessantes. L'homme ressent alors de la tristesse à travers cette colère-là. Et s'il porte attention à cette tristesse-là, c'est qu'il se rend compte qu'il y a un écart entre la qualité de l'échange en ce moment et le lien d'amour qu'il a envie de cultiver avec cette personne-là. Donc, en étant attentif à nos émotions, ça nous aide à ne pas, même sous l'effet de l'émotion, nous éloigner de choses de valeur qui sont importantes pour nous. Et finalement, les émotions facilitent aussi l'apprentissage. Donc, on va commencer par les émotions négatives intenses qui permettraient même d'apprendre en un seul essai. Par exemple, on n'a pas besoin de mettre deux fois la main dans le feu pour apprendre que c'est chaud et c'est dangereux. Donc, selon les auteurs, le cerveau classerait l'information qui est associée à une émotion négative intense comme dans un dossier à ne jamais oublier. Mais les émotions positives aussi sont impliquées dans l'apprentissage, comme Fredrickson l'explique. Elle crée l'état d'esprit d'ouverture et de motivation qui est nécessaire à intégrer des nouvelles informations. Donc, comme on disait tantôt, les émotions positives nous aident à avoir une certaine ouverture d'esprit et à nous donner la capacité de recréer, de repenser notre vision de nous-mêmes et du monde. Et ça, on en a besoin pour apprendre. Donc, dans le fond, lorsqu'une information ne stimule aucune réaction, qu'elle soit positive ou négative, elle ne peut pas être retenue. Pour apprendre, on a besoin de vivre des émotions. Les émotions, grâce à toutes ces informations-là qu'elles ramassent et synthétisent dans ce qu'on ressent comme une émotion, bien, elles nous aident à former ce qu'on appelle l'intuition. Et dans ce sens-là, ça facilite notre prise de décision. Donc, pour illustrer ça, l'auteur Greenberg relate l'histoire d'un homme qui avait subi des dommages dans des zones du cerveau qui sont associées aux émotions. Donc, l'homme n'avait plus d'émotions. et lors d'une prise de rendez-vous, l'homme était simplement incapable de choisir entre le mardi ou le jeudi. Pourtant, il avait toutes ses facultés de raisonnement. Et ça s'explique par le fait que les émotions sont vraiment impliquées dans la prise de décision. Elles offrent une genre de sensation globale de « oui, c'est ça » ou de « non, va pas là ». En faisant ça, ce qu'elles font les émotions, c'est qu'elles réduisent vraiment considérablement le nombre d'options possibles, parce que sinon, les possibilités sont infinies quand on se base simplement sur la logique. Et ça nous permet de faire des choix plus rapidement sans considérer toutes les options. Sans cette intuition-là, eh bien, l'homme, là, dans l'exemple, était simplement incapable, par la simple logique, de choisir la journée du rendez-vous. Mais à l'inverse, si on se base uniquement sur nos émotions pour agir, ben, on est plutôt semblable à des automates. Donc, on a de la peur, on court, on a de la colère, on frappe. Donc, ce serait vraiment une combinaison des émotions et de la capacité de réflexion qui, elle, nous permet de ne pas agir directement sur le coup de l'émotion. Idéalement, les émotions devraient agir à titre de consultant. On entend leur point de vue, mais on conserve la liberté de ne pas agir selon ce qu'elles nous suggèrent. Selon Greenberg, une combinaison des émotions et de la réflexion, du corps et de la tête, serait vraiment optimale pour diriger nos vies en cohérence avec nos buts et nos valeurs. Et cette vision des émotions serait appuyée, selon l'auteur Ledoux, par des découvertes en neurosciences, donc ça m'intéresse toujours. Donc, il y aurait deux voies impliquées dans le traitement des émotions, la voie rapide et basse. Donc là, ça passe par les amygdales et le thalamus. C'est une voie qui est approximative, qui est hyper rapide. On parle de quelques millisecondes et qui est beaucoup orientée vers ressentir, sonder, est-ce qu'il y a des dangers ici? Et il y a la voie lente et haute. L'information vient du thalamus, mais vers le néocortex. Donc là, ici, cette voie-là est plus analytique, plus réfléchie. Et il semble que les manières d'expérimenter, donc d'expérimenter des diverses situations de la vie et d'agir, qui sont le plus adaptées, seraient issues quand il y a une collaboration entre ces deux systèmes. Celui qui est plus lent, plus conceptuel, rationnel, délibéré, et celui qui est rapide, automatique, lié aux émotions et à l'action. En somme, les émotions sont nécessaires, on en a besoin pour vivre. Elles nous informent sur l'état de notre relation avec notre environnement, avec l'autre. Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je suis bien dans cette relation-là? Elles aident à signaler aux autres comment nous, on se sent. Elles nous préparent à agir et nous préparent à l'action. Elles nous aident à évaluer si les choses vont dans la direction désirée selon nos objectifs et nos valeurs et jouent aussi un rôle dans notre apprentissage. Et de plus, elles nous aident à avoir cette intuition qui nous permet de faire des choix quand même plus rapides. Cependant, les émotions peuvent aussi nous nuire. Donc, même si la plupart du temps, elles sont des guides précieuses et elles sont essentielles à notre survie, bien, elles peuvent aussi se tromper dans l'évaluation de la relation individu-environnement et nous induire en erreur, dans le fond. Et ça provient du fait qu'on est capable d'apprendre des schèmes émotionnels, des patrons émotionnels. On peut en apprendre des adaptés qui nous aident, mais aussi on peut en apprendre des maladaptés. Donc, il est possible de comme faire des apprentissages émotionnels qui nous nuisent et souvent ceux-ci proviennent d'émotions négatives intenses qui sont survenues dans le passé. Prenons par exemple une personne qui aurait vécu un vol à main armée dans une banque. Eh bien, cette personne-là pourrait, si elle entre dans un guichet automatique ou une banque ou un endroit qui ressemble de près ou de loin à une banque, cette personne-là pourrait sentir de la peur. Mais cette peur-là n'est pas adaptée parce que l'environnement en ce moment est tout à fait sécuritaire. Et là, cette personne-là pourrait se mettre à éviter d'aller dans les banques, dans les guichets automatiques, ce qui restreindrait là, éventuellement beaucoup sa liberté d'action. Un autre exemple, une personne qui aurait vécu de l'intimidation à l'école pourrait avoir associé toute forme de critique ou de moquerie à une profonde expérience de honte et de désespoir. Plusieurs années plus tard, cette même personne pourrait réagir avec beaucoup de détresse lorsqu'une personne lui fait une petite remarque sur son habillement. C'est parce qu'elle a appris que la moquerie était associée à cette profonde expérience-là de honte, de désespoir et finalement de peur d'être seule. Plus l'émotion négative arrive tôt dans la vie de la personne, plus elle a été intense et répétée, plus elle s'ancre dans le corps de la personne. Thank you. Et cette émotion négative s'ancre sous la forme de ce que Greenberg appelle les schèmes émotionnels. Ça, c'est comme un programme qui se déclenche assez automatiquement, donc sans qu'on en ait vraiment conscience, selon ce qu'on perçoit dans une situation. Et ce programme-là est assez complet, donc il y a à la fois une réponse corporelle, le rythme cardiaque, la pression sanguine, les hormones, les muscles, etc. Une réponse émotionnelle aussi, et une tendance à l'action. Donc, est-ce que je suis plus motivée à faire cela, à ne pas le faire? Et aussi, ça inclut des pensées, des croyances, etc. Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit dans un environnement invalidant. Par exemple, sa colère n'est pas la bienvenue. Quand l'enfant démontre la colère, ben, sa mère lui reproche, lui dit des choses comme « Hey, tu ne me parles pas sur ce ton ». Et cette expérience de se faire refuser la colère, ce que ça crée, c'est comme un état émotionnel de solitude profonde, de désespoir, une impression de ne pas être correct, que ce que je vis, c'est pas bon, je suis pas bon, je vais me figer, je vais garder tout ça en dedans et je vais sourire. Bon, là, on s'entend, c'est pas parce que une fois, deux fois ou même 20 fois, on invalide notre enfant que ça va absolument lui créer un schéma émotionnel de cet ordre-là. Comme on l'a dit tantôt, c'est la régularité, l'intensité et le fait que ça arrive tôt dans le développement qui augmente les chances de créer un schéma émotionnel mal adapté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de l'environnement familial où était enfant, ce schéma-là était adapté parce que l'enfant avait besoin de créer un lien d'attachement avec ses parents et avait besoin de ses parents pour survivre. Donc, ce schéma émotionnel-là était adapté à ce moment-là. Mais cependant, lorsque la personne a 40 ans et qu'elle est toujours incapable de mettre ses limites à l'aide d'une saine colère, elle est incapable de s'affirmer, bien, ça n'aide pas à vivre des relations épanouissantes autant pour elle que pour les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces apprentissages émotionnels moins adaptés peuvent se transformer. Mais comment changer ce qui s'active automatiquement? Donc ici, je sors un petit peu de la thérapie centrée sur les émotions pour aller dans une conférence que j'ai écoutée du docteur Frédéric Philippe au département de psychologie de l'UQAM. Donc selon ce que j'ai compris, lorsqu'on rencontre une situation, donc, ça peut être une insulte, une situation qui nous déclenche. Eh bien, là, notre hippocampe, ça, c'est une structure dans le cerveau qui est responsable de retrouver les mémoires qui sont pertinentes à la situation actuelle. Donc, notre hippocampe va chercher dans notre registre de mémoire laquelle est la plus pertinente à la situation. Donc, l'hippocampe est très utile parce qu'il nous aide à refaire ce qu'on a déjà fait. Ça nous permet de ne pas toujours réanalyser toute la situation en profondeur, donc ça nous rend beaucoup plus rapide. Par exemple, quand quelqu'un vous dit bonjour, vous répondez par bonjour, vous souriez, vous avez votre manière de répondre et ça, c'est grâce à l'hippocampe. Vous n'êtes pas obligé de réanalyser la situation en profondeur. Cependant, l'hippocampe est très rapide, mais pas très précis. Donc, parfois, la mémoire qui va ramener et qui va vous créer une réponse émotionnelle, qui va ramener un schéma émotionnel, ben, n'est pas vraiment adaptée. Ici, je vais donner un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'essayais d'habiller ma fille de 2 ans et demi et ce n'était pas facile, elle résistait beaucoup. Et je me suis rendu compte, j'avais une tension qui montait en moi. Et en regardant un peu à l'intérieur, je me suis rendu compte que j'avais de la colère qui était dirigée envers ma fille, mais que comme je la jugeais comme injustifiée, je la refoulais. Donc évidemment, ça n'aurait pas été adapté d'agir ma colère sur ma fille. Ce n'est pas de sa faute, elle a 2 ans et demi. C'est à peu près son stade développemental de résister quand on lui demande quelque chose. Mais cependant, ce n'est pas plus adapté de la refouler. Une émotion, comme on l'a dit tantôt, c'est mieux, ça dure 90 secondes au maximum, c'est mieux de la laisser passer sans nécessairement agir à partir de l'émotion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de m'offrir de l'autocompassion. Donc, j'ai mis la main sur mon cœur, j'ai fermé un peu les yeux et intérieurement, je me suis dit « oui, c'est difficile en ce moment, je sais que c'est difficile en ce moment ». Et je me suis mis à refaire ce mouvement d'autocompassion à chaque fois que j'éprouvais de l'agressivité ou de la colère dirigée envers ma fille. Donc, à la place de refouler cette colère ou de l'agir en élevant le ton ou des choses comme ça, je m'offrais de l'autocompassion. Et ce qui se passe, selon Frédéric Philippe, c'est que mon hippocampe, à chaque fois que ce schème colère refoulée, la colère monte et que j'y ajoute l'autocompassion, bien, mon hippocampe enregistre ce nouvel élément comme faisant partie du schème émotionnel. Donc, la nouvelle émotion apprise, c'est colère, quelque chose qui veut refouler la colère, mais finalement, on entraîne l'autocompassion. Comme démontré dans l'exemple que je viens de donner là, avec ma fille, une des manières dont on peut transformer une émotion, bien, c'est par une émotion. Mais une émotion qui est expérimentée véritablement dans l'ici et maintenant. Donc, d'en parler, de comprendre, par exemple, « Ah oui, moi j'ai tendance à refouler ma colère, faudrait pas que je la refoule », c'est pas suffisant. Il faut vivre une expérience concrète dans le moment présent et c'est comme ça que l'hippocampe va pouvoir associer cette expérience-là et la ramener les prochaines fois. Donc, c'est quoi les émotions adaptées? Bien, l'autocompassion, comme dans l'exemple. La tristesse aussi, faire le deuil. Parfois, il y a réellement eu une perte et on a besoin de la pleurer, de vivre un deuil. Et la colère affirmée. Donc ici, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça vraiment intéressant la distinction entre la colère affirmée et la colère rejetante. La colère rejetante, bien, c'est quand on a envie de blâmer l'autre, le monde. On se sent plutôt coupé du monde qui est contre nous. Au contraire, la colère affirmée, bien, ça va libérer une énergie saine qui va nous permettre de communiquer nos limites aux autres et ça va les aider à mieux vivre en relation avec nous. Une colère affirmée, ça dit « Voici l'espace relationnel dans lequel j'ai envie d'être en lien avec toi. Là, tu viens d'en sortir. » Donc, ça donne à l'autre la clarté sur comment entrer en lien avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais pour ma part, ça m'est déjà arrivé d'exprimer une colère, une limite, et de demander à l'autre ce que ça lui faisait et que l'autre me réponde. Eh bien, ça me rend en sécurité parce que maintenant, je connais l'espace, je connais les limites. Un peu comme, vous savez, les parents, là, on nous dit souvent qu'il faut offrir aux enfants des limites claires. Mais dans le fond, les adultes aussi, on en a besoin. On veut savoir quand je suis en relation avec telle personne, quel est le terrain de jeu, quelles sont les limites à ne pas dépasser et quel est l'espace dans lequel je peux entrer en relation. Fin de la parenthèse, revenons à notre sujet principal. Comment transformer un schème émotionnel? Bien, le premier élément, c'est en amenant une émotion adaptée qui va être associée et qui va transformer de l'intérieur ce schème émotionnel-là par notre hippocampe. Deuxièmement, on a aussi besoin d'un espace sécuritaire. Parfois, quand l'émotion n'est pas si intense comme dans l'exemple que je vous ai donné, on est capable de le faire seul. Cependant, si le schème émotionnel est associé peut-être à une mémoire un peu plus traumatique, que l'émotion est plus intense, ou simplement que vous êtes dans une période de vie où vous vous sentez plus vulnérable, plus fragile, eh bien, c'est normal d'avoir besoin d'être accompagné. De revisiter des mémoires plus ou moins traumatiques, oui, ça peut mener à des expériences réparatrices, mais j'aimerais vraiment mettre en garde, ça peut aussi re-traumatiser. Par exemple, si la personne ne se sent pas tout à fait stable émotionnellement, dans un état moins optimal, ou si la charge émotionnelle associée à la mémoire est trop grande pour l'accueillir seule. C'est vraiment normal d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'une autre personne qui nous aide à créer cet espace relationnel sécuritaire pour accueillir l'émotion qui a été vécue dans le passé. Donc ici, je vous partage l'information à propos de comment transformer nos schèmes émotionnels parce que je pense que ça peut être utile au quotidien pour les petits changements. Mais vraiment, si vous pensez avoir vécu des traumas dans le passé, la recommandation, c'est vraiment d'aller chercher du soutien. Ce que je retiens, en somme, c'est que les émotions sont des guides, sont une boussole, sont nos consultants, comme je le disais tantôt, qui recueillent énormément d'informations. Elles sont infusées avec nos valeurs, nos désirs, nos besoins et notre histoire émotionnelle. Donc, c'est vraiment important de les accueillir, de les écouter et d'aller chercher quelle est la signification de cette émotion-là. En même temps, les émotions sont aussi teintées de nos blessures du passé. Et parfois, ça nous entraîne des réactions un peu moins adaptées. Donc, on peut ici essayer de transformer nos schémas émotionnels dans un espace sécuritaire en y ajoutant une émotion plus adaptée, comme l'autocompassion, par exemple. Personnellement, j'aime penser aux émotions qui proviennent du passé, comme des petits enfants tristes, apeurés ou en colère, qui ont simplement besoin d'une mère ou d'un père aimant-aimante. Parfois, on est capable de nous offrir nous-mêmes cet espace d'accueil, de reparentage, mais cependant, il arrive qu'on ait besoin d'accompagnement dans cette démarche. Voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode sur les émotions. Il y en aura probablement d'autres, c'est tellement un thème riche et intéressant. Je vous rappelle mes sources, le livre « Emotion Focus Therapy, Coaching Clients to Work Through Their Feelings » de Les Greenberg et la psychothérapie centrée sur les émotions de Kramer et Rogama. Je tiens à souligner aussi la pièce musicale « Cats » du musicien montréalais Clayton Kennedy sur l'album « Strange Things Happen on Your Birthday ». Mon nom est Maryse Damcourt. J'espère que vous avez apprécié.